Pèlerinage au pays du rail avec Hadj Samir.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Il se balade, la tête dans les étoiles et les baskets sur la planète Rail. En réalité, il a moult planètes accrochées à ses basques. C'est l'histoire d'un immense collectionneur de vinyles et de cassettes qui a trouvé le moyen d'installer ses deux pays sur une terrasse, avec thé à la menthe, guitare électrique et album photo. L'Algérie et la France, un casque sur les écoutilles, avec dans les oreilles l'histoire du Rail, né clandestinement en Algérie, pour exploser en France et à l'international et disparaître, on ne sait diantre pourquoi. But Rail is not dead. Un slogan et surtout une série documentaire à voir en ce moment sur Arte, la chaîne franco-allemande. Série co-écrite par Simon Maisonobé, Grégoire Bellost et notre invité Hadj Samir. La baisse, Julia ?
Ça va, Noudla, merci. Tout va bien.
Vous savez qu'on est très très curieux en sol majeur. On aimerait savoir le secret de votre nom, Hadj Samir. Hadj, c'est quand on a fait le pèlerinage.
C'est ça, entre autres. Et puis, c'est aussi un statut dans les pays à héritage musulman en Afrique. C'est évidemment le pèlerinage, mais par extension, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a atteint un statut après avoir cumulé beaucoup d'expériences de vie et beaucoup de connaissances, en fait.
Alors, c'est votre cas ?
C'est pas forcément mon cas, mais c'est ce à quoi j'aspire, j'espère, déjà religieusement, puis ensuite évidemment culturellement avec la musique et bien d'autres expériences de vie, j'espère.
D'accord. Hadj Samir, comme ouais. Le prénom, pas Hadj Samer.
Oui, absolument, Hadj Samir. Oui, c'est double E, comme au Pakistan, en Inde, etc. Ouais.
Alors, sans trop en dire, on s'embarque pour l'Algérie, Al-Jazaïr, du côté des îles, donc, et de ses corsaires.
Yes.
Chanté par le rossignol du Chaabi, j'ai nommé Monsieur Guerouabi.
أنا في حياتي كسبت خيرات أنا في حياتي كسبت خيرات وكلامي جبت رباعي رباعي أنا في حياتي كسبت قيراط وكلامي جبت رباعي قداش من واحد أعطاه الله قداش من واحد أعطاه الله وعدي ويقول عندي دراعي قداش من واحد عطاه الله يا وعدي ويقول عندي دراعي عندي دراعي عندي دراعي قرصاني غنم قرصاني غنم جاب علجات خواص من حوز مالطا الكل عازبات سلموك يا قدات قرصاني علم قرصاني علم فوق يمين مالي معلم باشطة مصنوع من الوريق الجماد والفقات سطاش من القلوعة وشرايطها تنجان
Si c'est pas un kiff, ça. Le drapeau des corsaires qui flotte sur votre ensemble majeur, Hadj Samir, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de cette chanson de Gerwabi El Korsan ?
Une chanson à l'effigie du coup des capitaines corsaires, un vrai voyage spatio-temporel du coup à travers la Méditerranée finalement avec une bataille entre les soldats de Philippe III d'Espagne, Philippe II d'Espagne, les corsaires aussi marocains de la ville de Salé et les corsaires principalement algérois. Et finalement, cette musique est un peu une ode ou un hommage à ces capitaines corsaires qui ont essayé de, en tant que peuple autochtone, de défendre leurs frontières, notamment maritimes, et puis leurs terres. Et donc, c'est un son qui est à l'effigie, justement, de ces voyages transméditerranéens.
Oui, que vous aimez. Et puis, on barbote en plein Chaabi.
Oui.
Alors, redites-nous ce que c'est que le Chaabi, rapidement.
Le Chaabi, c'est un signe arabo-classique, plutôt algérois, je dirais, et dans la lignée de Hedj Mohamed El-Anka, qui est un des pionniers. Et on va dire que c'est une musique beaucoup plus orchestrée, avec des instruments hérités de l'influence arabo-andalouse, et avec un chant un peu plus classique. Et c'est un genre qui est venu un peu se mettre en opposition naturellement avec du coup le raï. Mmh. Et c'est ça qui est assez intéressant finalement, c'est un peu ce clash des écoles. Et j'ai grandi moi avec le Chaabi justement étant petit parce que c'est ce qu'écoutait mon père principalement. Il y a aussi quelque chose de générationnel, c'est beaucoup plus ancien que le raï historiquement, mmh. en tout cas dans sa forme que l'on connaît aujourd'hui. Et donc ça fait aussi partie de mon ADN musical, donc forcément ça me touche tout particulièrement.
Et puis votre père, je crois qu'il a connu
Dahman Harachi,
un immense du Chaabi aussi.
Absolument, ouais.
Alors si on reste collé au canapé familial de vos années d'enfance, on ne peut pas ne pas revoir le fameux film de Moussa Haddad, Les vacances de l'inspecteur Tahar. Immense succès en Algérie, avec on va dire un Sherlock Holmes et son Dr Watson, mais version algérienne.
B.
B comme... boîte à souvenirs.
درك رانا عارفين يا انسبكتور باللي السيد اللي مع السيد واتسون ما راهوش واتسون الحقيقي
بيان سور 190 اللي نبعثوا حتى تيليجرام لسكوتلاند يارد هاو نتوما يعطونا معلومات على باتسون الحقيقي
هذه شوفها يا انسبكتور على كل حال انا كنت راني فهمتها في كلش قلت لها تعسهم اذا العشيه جابت لنا خبر مليح راني فاهمك في كل شيء يا انسبكتور على خاطر لافير واتسون ولات سيانتيفيك
Scientifique a dit à Othia, je suis politique.
Là, inspecteur, scientifique, maintenant, quand il y a un lien.
Sur une musique d'Ahmed Malek avec l'inénarrable Hadj Abderrahman en inspecteur Tahar et Yahya Ben Mabrouk en apprenti. Bon, faut expliquer pour les non-arabophones, j'en fais partie, mais enfin on arrive quand même à comprendre, vu que c'est cette langue algérienne magnifique, ce qui fait le sel de cet inspecteur Tahar. Vous avez ri hein, pendant l'extrait.
Le sel, c'est son accent piquant, c'est vraiment des personnages comiques et attachants. Donc, inspecteur Tahar, le personnage en tout cas est originaire de Tahar, donc la périphérie de Jijel, la ville dont je suis originaire. Et c'était déjà une figure locale pour nous, donc il mimait l'accent gigilien, parfois s'en moquait, mais finalement c'est vraiment devenu notre emblème à l'échelle nationale, donc un duo comique, et en dehors des caméras aussi, donc c'était très intéressant de voir que lorsque l'un a disparu et tombé malade et est mort, l'autre a fini en dépression en fait. Donc il y a un truc très attachant vis-à-vis des deux, des situations très comiques, dans les vacances en l'occurrence, on les voit interagir avec des touristes anglais à l'époque d'une Algérie dans les années 70, en pleine effervescence post-indépendance. Et puis bien évidemment, ce qui met en relief tout ça, c'est le génie orchestral Ahmed Malek qui en a fait la BO.
C'est un inspecteur un peu foutraque.
Oui, absolument, ouais.
Alors, vous êtes né et vous avez grandi en France, Hadj Samir, mais apparemment l'Algérie a été présente dans votre vie de mille manières à la maison.
Ouais.
Et la langue française et la langue algérienne ont cohabité, vous diriez, à égalité ?
Ouais, je pense même plus à la langue française, honnêtement. La langue algérienne, on avait quelques interjections ou quelques mots qu'on réinjectait dans notre français. Mais la darija qu'on utilise de toute manière est déjà un peu créolisée et mélangée au français de base. Donc,
darija, c'est-à-dire l'algérien ?
L'algérien commun, l'algérien parlé. Donc c'est ce qui est très intéressant. Il y avait déjà une alchimie de base entre le français et l'algérien parlé. Pas littéraire, bien évidemment. Donc on communiquait vraiment de manière très naturelle et équilibrée entre les deux, en fait.
Quelles études vous avez faites ?
Des études de sciences, de médecine, et ensuite je me suis plus orienté vers un parcours recherche dans le développement thérapeutique sur différents projets, et puis à côté de ça, je me suis toujours passionné, fasciné pour la musique et les arts.
Oui, parce que vous avez effectivement un monde, une grotte parallèle. Combien de vinyles et de cassettes à la maison ?
Ce que je disais justement tout à l'heure, c'est que j'ai arrêté de compter à partir de 10 000. Mais on va plus parler en poids maintenant presque. Mais oui, plus de 10 000 disques, c'est sûr. Et puis après, une grande collection de cassettes aussi. Mais je suis plus focalisé sur les disques et notamment 33, 45 tours plutôt que sur les 78 tours.
Et comment elle naît alors, cette passion de collectionneur ?
La bourgeonnait en moi grâce à mon père qui lui était déjà un fanat de musique. Et ma mère aussi parallèlement, mais plus mon père qui lui avait commencé à collectionner notamment du shabby quand il était jeune. Et aussi du jazz américain parce qu'il avait bossé à l'armée américaine à un moment donné dans sa vie. C'était un de ses premiers boulots quand il est arrivé en France. Et donc du coup, il a fréquenté ces hommes noirs de Chicago qui écoutaient du bebop, puis ensuite du jazz. Et bien évidemment aussi beaucoup de variétés françaises qu'il a commencé à collectionner parce que pour eux, c'était vraiment un facteur d'intégration, justement, de s'approprier ses musiques et les paroles. Et finalement, j'ai eu une sorte de bouillabaisse de tout ça, un mélange de musique franco-européenne, bien évidemment avec un background, on va dire, nord-africain et arabe, notamment Moyen-Orient et turc, anatolien, et puis après tout ce qui est américain, donc jazz, etc., et black music en général.
Bouillabaisse ou mshouya ?
Mshouya, c'est ça, exactement.
Alors, tous les goûts étant, vous le savez mieux que personne, dans la nature, question.
Thé comme tango ou techno ?
Je dirais plus techno, mais pas au sens européen du terme.
C'est-à-dire ?
Je pense que malheureusement, techno est un des termes génériques qui a été justement mal utilisé et j'imagine approprié de la mauvaise manière aujourd'hui, mais dans l'histoire, la techno vient essentiellement de Détroit et c'était une musique qui permettait l'épanouissement d'une classe afro-américaine pauvre et qui bossait dans les industries, notamment de véhicules motorisés. Et donc finalement, la techno et la réappropriation de boîtes à rythme et de claviers, de synthétiseurs, fin 70, début 80, par une classe pauvre noire en Amérique, notamment à Détroit, pour s'émanciper artistiquement. Et donc du coup, ils se sont créés une micro-scène qui ensuite s'est transvasée en Europe et notamment à Berlin, et puis qui ensuite a éclos à l'échelle internationale.
On sent le collectionneur tendance spécialiste. Alors, on découvrira tout à l'heure que vous êtes en fait tout terrain, mais le temps d'une série documentaire qui est à voir en ce moment sur Arte, la chaîne franco-allemande, vous êtes « Rai is not dead ». C'est le titre de cette série. Comment l'idée est née ?
Le titre vient plutôt de Simon Maisonob, qui du coup est le réalisateur et le co-auteur qui est venu m'approcher quand il a découvert qui j'étais et le travail d'archivage que je faisais de mon côté. Et c'est lui qui a eu cette idée. C'est un clin d'œil déjà à Fanfarai qui a fait un album fin 90. Et puis on trouvait ça sympa de dire que le rail n'est pas mort et qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre en fait vers le rail d'aujourd'hui, notamment à travers une jeunesse qui s'y intéresse à nouveau avec un travail rétrospectif et puis aussi via une nouvelle forme de métamorphose que connaît le rail aujourd'hui grâce à l'évolution technologique, industrielle, etc. Et c'est ce qu'on évoque.
Rai is not dead, donc avec le soutien de la SACEM et de l'IMA, l'Institut du Monde Arabe. Ouais. On vous voit en Indiana Jones repartir sur les traces de cette musique. Épisode 1 qui est intitulé « Apogée et chute du rail ». Vous faites le voyage, puisque parler du rail, c'est parler du bled et de la France. Le sac à dos donc fait Paris, Alger, Lyon, Sidi Bel Abbès, Marseille, Djigel, le village familial. En quoi cette musique raconte vos deux pays, Hadj Samir ?
Elle raconte déjà la France en Algérie, à travers justement l'appropriation d'instruments européens et l'intégration de ces instruments dans un rail très bédouin des années 50-60. Et puis l'Algérie en France, à travers la diaspora dans les années 70-80. On sait très bien que l'Algérie et la France ont un destin croisé et le rail en est un peu la bande sonore, si je puis dire.
Alors vous évoquez évidemment l'explosion du rail avec notamment l'album Kouché, premier album de Khaled, qu'on appelle Cheb Khaled encore à l'époque, qui atterrit donc en dehors de l'Algérie, album composé entre autres par Safi Boutella,
tout à fait,
coproduit par Safi Boutella et Martin Messonnier, que vous rencontrez dans cette série, ce qui est génial. En même temps, dans une série qui retrace l'histoire du rail, on est un peu frustré de ne pas entendre la voix algérienne de Sophie Boutella.
Alors, ça a été très compliqué de l'avoir, honnêtement. Mais on s'est raté en fin de tournage. Et il faisait des allers-retours en Algérie et en France. Et pareillement de notre côté, sauf qu'on était à chaque fois diamétralement opposés, en fait.
Dommage, dommage pour nous.
Ouais.
Alors, pour évoquer rapidement cette chute du rail, il y a plusieurs éléments qui expliquent la disparition du rail.
Absolument. Un boycott industriel.
Lié au 11 septembre, mais avant, il y a eu la décennie noire.
Absolument.
En Algérie.
Oui. Mais après, la décennie noire a fait connaître justement ces artistes algériens en France puis en Europe. Donc, il y a un paradoxe par rapport à la décennie noire dans le sens où justement ces artistes ont continué de s'épanouir artistiquement en France. Et donc, du coup, ont pu intégrer l'industrie musicale française, puis européenne, puis internationale. Donc, finalement, je pense que la décennie noire, même si c'est compliqué de dire ça, a été, je pense, une chose positive pour ces artistes-là.
Avec une facture quand même,
puisqu'il
y a des artistes qui ont été assassinés au cours de cette décennie noire. Puis il y a des affaires, l'affaire Cheb Mami, même l'affaire Cheb Khaled.
Que ce soit le rail ou le rock, on parle de genre avec plein de polémiques. Et puis le rail tout particulièrement est à la base le vecteur d'expression d'une classe populaire. Donc on parle de gens qui ont connu une ascension sociale et culturelle fulgurante, qui ont connu entre guillemets tous les vices et qui n'y étaient peut-être pas préparés. C'est comme aujourd'hui un joueur de foot qui vient d'un milieu très populaire et qui va tout de suite toucher de grosses sommes d'argent et puis ensuite malheureusement peut-être être mal conseillé, mal entouré et finalement déraper de temps en temps. C'est le propre de l'humain.
Univers impitoyable. Ouais. Alors, pour remonter aux sources du rail, épisode 2, intitulé « Barbès, capitale du rail », vous rencontrez Hadj Samir, l'Aznavour algérien, et vous venez pas les mains vides avec.
Je t'ai ramené quelque chose. Ah, juste pour qu'on voit ça ensemble. Une petite surprise. Parce que moi, je t'ai dit, je collectionne beaucoup les disques.
Je m'attendais pas à ça.
Et je t'en ai ramené quelques-uns pour que tu les vois.
Christa. Là, c'était la mode pâte d'éléphant.
Ah, j'adore, moi.
Pâte d'éléphant.
J'adore. T'as toujours le même style. Chlorouma, la cravate, classe, tu vois.
Les cheveux longs.
C'est funky. Moi, pour moi, t'es mon James Brown.
اه يا مالي 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 وين نقيل انا ومسالية احبيبي وهد اللالية وين نقيل انا ومسالية اه يا مالي مالي
je chantais beaucoup Araï, Araï, Araï. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Araï? Ça veut dire j'ai pris le mauvais chemin et je regrette. Araï, le coin de Traï comme chez Timena. Araï, vous êtes habité, vous êtes allié. Sidi Rabbi Khfir Li,
pardonne.
Sidi Rabbi Khfir Li a dit, cette chanson, elle a fait ravage à Oran.
C'est un succès.
Après, Khaled et Mami, ils ont dit, Araï, Araï. Ils l'ont donné ce Araï, ce nom. Il devrait avoir un nom comme le rock, comme etc.
Bien sûr.
Rai, c'était bien placé.
T'as vu la différence, toi, du coup? Parce que t'as vu le rail qui était national,
moi, j'ai année. Préparé les frontières.
C'est ça, t'as préparé les contours. Et après,
et Khaled et Mami, ils ont ouvert les frontières.
Voilà l'origine du mot rail avec le charme de Boutaïba Srir. Donc, c'est un kiff incroyable pour vous de le rencontrer.
Un kiff incroyable et c'était un des buts, c'était vraiment aussi de reparler de ces noms oubliés dans l'histoire. Malheureusement, il y a aussi un vide intergénérationnel parce que les gens de mon âge ou même plus jeunes n'ont pas forcément pris connaissance de l'existence de ces artistes-là qui ont inspiré justement les artistes majeurs d'aujourd'hui, dont Khaled, dont Mami, etc. Et donc pour moi, c'était important de remettre dans la frise chronologique ce qui s'était passé.
Et dans cette frise chronologique, comme vous dites, on voit bien le lien indéfectible entre l'Algérie et la France. Il est surnommé l'Aznavour algérien. Pourquoi?
Parce qu'il a une voix mélodieuse et parce qu'on aime faire des comparaisons.
Il n'a pas repris Aznavour?
Alors c'est peut-être Aznavour qui va le reprendre, je ne sais pas.
Non, mais parce que ça existait dans les cabarets à
alors
l'époque.
C'est
hein.
peut-être possible dans les cabarets. Moi, dans mes archives, je n'ai pas de... Mais en tout cas, il a une façon un peu plaintive de chanter qui ressemble à celle d'Aznavour. Donc je pense que c'est notamment pour le ton donné dans ses chansons.
Alors, c'est en France et à Barbès en particulier que tout va commencer pour le rail. Pourquoi ouais. Barbès ?
Pourquoi Barbès ? Parce que les premiers Algériens sont montés naturellement là-bas et que de fil en aiguille, bah, on a eu une agrégation d'Algériens, de Maghrébins là-bas. Et puis, les gens se sont structurés en fait. Ils ont commencé à acheter des boutiques et puis à créer des shops de cassettes et de vinyles.
Parce qu'il y avait des disquaires.
Parce qu'il y avait des disquaires.
Parce qu'il y avait une radio.
C'est ça. C'était le point de convergence de beaucoup de gens de la diaspora. Ouais,
Radio Soleil, explosion clairement. De la cassette. Là, on a perdu les jeunes, ça y est.
Ouais, on a perdu les jeunes de l'époque. Mais c'est vrai que la cassette, elle, pour le coup, était bah, le média le plus facile pour transporter ces musiques venues d'ailleurs, finalement.
Et puis j'adore voir dans votre documentaire à Barbès une place Shirarimiti, ouais. Évidemment. C'est peut-être la plus subversive hein, du casting. Justement, que racontent les textes du rail ?
Il y a différentes thématiques et je pense que c'est aussi chanteur dépendant et mood dépendant. Mais finalement, les principaux sujets sont évidemment l'exode, le fait de ressentir un manque de la terre d'origine. Ça peut être l'amour, les sentiments, ça peut être des faits divers. Donc ça peut être aussi des textes très engagés politiquement. Tout dépend finalement du chanteur. Mais en général, on va dire que c'est des thèmes de la vie.
Je ne sais plus qui dit dans votre documentaire que c'est le rail, c'est l'opinion.
Oui, c'est ça aussi, c'est l'opinion finalement, parce que beaucoup de chanteurs ont pu donner la parole à cette jeunesse qui n'avait pas de porte-parole auparavant. Le rail, encore une fois, est un genre de la classe populaire et les jeunes avaient besoin de ces émissaires justement pour pouvoir s'exprimer. Et c'était eux leur exutoire finalement et leur porte-parole.
Aujourd'hui, il y a une petite guerre générationnelle, c'est signe de bonne santé, entre les anciens et les nouveaux du rail. Oui. Alors, tant au niveau de la voix, elle n'est pas du tout traitée de la même manière aujourd'hui, qu'au niveau des paroles.
Oui. Alors, parmi la nouvelle génération, il y a aussi bien évidemment des artistes qui ont des textes avec plein de sens, qui s'inspirent énormément des anciens. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, on va dire d'un point de vue esthétique, musical et d'écriture, est vraiment différente de ce qui s'était passé avant.
Vocodeur sur la voix.
Voilà, la voix électrisée, des textes, on va dire, avec des phrases beaucoup plus légères.
Le rail doit s'écouter en famille, doit pouvoir s'écouter en famille.
Mais en tout cas, ça a toujours été son histoire. Donc,
mais voilà. C'était pas le cas à l'époque. Hein. On écoutait ça dans les cabarets de façon clandestine. C'était l'Algérie underground.
Moi, il y avait le rail underground et puis il y avait un rail en famille. Moi, je me souviens en tout cas d'avoir écouté le rail en famille, mais avec des paroles justement bien édulcorées. Et donc après, c'est à nous de choisir les bonnes cassettes.
Alors après Marseille, dont on dit que c'est la 59e wilaya d'Algérie. Après Oran, la ville de Feu Cheb Hasni, justement ouais. Assassinée pendant la décennie noire. Suite de Rai is not dead à Aïn Temouchent, c'est en Oranie. Épisode 5 que vous avez intitulé « Aux sources du rail moderne ». C'est l'épisode préféré de notre invité Hadj Samir, où vous rencontrez un dinosaure du rail, Monsieur Messaoud Belemou, qui va rajouter à la poésie bédouine et au rythme des Meddahat des instruments modernes et occidentaux hérités de la colonisation française.
Je me suis dit, moi, pourquoi cette musique-là traditionnelle, ce que nous avons traditionnel, la musique le gaspa et le galal.
La musique bédouine.
Voilà, la musique bédouine, voilà.
Flûte et percussion.
Je l'ai modernisé. J'ai commencé à créer quelque chose de nouveau. On a débuté dans des mariages, dans des camionnettes. Quand on partait pour chercher la mariée, on fait un cortège, ouais. Cortège de voiture. Et puis une petite camionnette que ouais. Le même groupe est là.
Et vous traversez tout à Aïn Temouchent,
ah,
comme
là.
Ça,
et
en cortège.
On traverse tout à Aïn Temouchent en cortège. Et c'est ça qui nous a fait la publicité. Ça a commencé comme ça.
D'accord.
Et puis dans les mariages, à l'époque, il n'y avait pas des mariages en hiver.
Ouais.
Donc en hiver, c'est le chômage. Voilà, c'est la vérité.
Pas d'activité.
Il n'y a pas d'activité. Donc il fallait qu'on s'engage dans les cabarets. J'ai travaillé plus de 30 ans de ma vie dans des cabarets. Oui.
Après Ain Timouchent, direction Sidi Bel Abbès. Une ville aux nombreuses légendes. Les aigles noirs, Cheikh Naem, et qui connaît surtout une révolution dans les années 70, l'apport de la guitare électrique et de la pédale wah-wah dans le rail. Disparu tragiquement dans un accident de voiture en 1983, le chanteur et guitariste Ahmed Zorghi est le principal artisan de cette nouvelle étape.
C'est bien avec le son, c'est encore mieux avec l'image sur Arte et sur RFI dans votre en sol majeur avec un Cheb Zerghi dont on sait peu de choses, Hadj Samir.
Dont on savait peu de choses, ouais, et je suis bien content qu'aujourd'hui les gens viennent me dire qu'ils ont découvert des artistes d'antan. Et ce qu'on ne savait pas justement jusque-là, c'est que Zerghi est une des personnes qui a le plus influencé Khaled, et Khaled a fait beaucoup de reprises de ses sons.
Alors la période du rail qui vous passionne le plus, c'est donc celle-là.
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'on est un crossover entre, je pense, deux époques. Et on voit justement le pouvoir de ces autodidactes d'utiliser ces instruments auxquels ils n'étaient pas familiers de base.
C'est-à-dire
la trompette, le saxophone, ça va être le synthétiseur un peu plus tard. Mais en tout cas, là, la guitare, la pédale wah-wah, la guitare électrique.
Qui viennent de la colonisation.
De la colonisation, puis ensuite aussi de l'import. Ils les utilisent à leur manière. Là, ils élèvent le rail à un tout autre niveau, en fait. Et puis le rail devient un genre plutôt fusion, même si j'aime pas ce terme très fourre-tout. On mélange les sonorités, on mélange les mondes. Et c'est ça aussi l'histoire du rail, finalement.
Et ça fonctionne.
Ça fonctionne, ça groove, justement. Et c'est ça que j'aime, clairement.
Aujourd'hui, le style qui cartonne à Alger, c'est le Zenkawi.
Zenkawi. La Zenka, ça veut dire à proprement parler la rue, donc l'extérieur, la rue, la street, comme on peut dire. Le Zenkawi, c'est un genre qui a émergé, donc, on va dire, dans les années fin 2010, et donc qui est issu à la fois du rap hip-hop algérois, parce qu'il y avait une grosse scène dans les années 80, 90, 2000.
MBS.
MBS, Intik, etc.
Magnifique. Et, hein.
J'adore. Ouais. c'est vraiment du boom-bap algérien. Et en même temps, des chants de stade. Et donc, c'est des vrais chaudrons, en fait. Et donc, finalement,
il y a une créativité,
une spontanéité. Oui. Incroyable. Et puis, une énergie, en fait. Une énergie. Et la jeunesse vit à travers le sport. Donc, c'est aussi un vecteur d'épanouissement. Et donc, finalement, les stades sont aussi les espaces d'expression pour la jeunesse.
Et c'est le baromètre, dit quelqu'un dans votre documentaire, c'est
clairement
du mental du pays.
Absolument, oui. Clairement. Et donc on voit là une jeunesse pleine de fougue. Et je trouve ça beau. Et donc finalement, le Zenkawi est un digne héritier de tout ça. Donc, et de la scène urbaine, rap urbaine algéroise, et des chants de stade. Et donc qui est venu ensuite prendre sa place naturellement lors du Hirak et des manifestations à la fin du gouvernement de Bouteflika.
Et vous en avez fait partie des
manifestants ? Non, j'étais en France, je travaillais. Moi,
alors vous êtes ici. Ici ou là-bas ? Là-bas ou ici ?
Mentalement là-bas, en tout cas lors de ces événements-là, et puis physiquement ici, parce que j'ai aussi des impératifs.
Alors la preuve que le rail a impacté votre vie via cette série Rail is not dead, elle vous a emmené sur la route de Jijel,
oui,
en petite Kabylie.
C'est ça.
Là où vit Houria, votre grand-mère. Séquence tendresse.
Salam.
Bon, je suis pas sûr qu'on ait besoin de traduction. Juste pour l'image, votre grand-mère qui a presque 98 ans aujourd'hui,
ouais,
est toute petite à côté de vous.
Ouais, c'est la mère de ma mère, donc c'est la personne avec qui j'ai le plus grandi en Algérie.
Vous lui devez quoi ?
Je lui dois évidemment toutes les valeurs qui ont été retransmises ensuite par ma mère, donc notamment l'humilité, le courage, la bravoure, la détermination, et puis la valeur du travail et de la reconnaissance, et la simplicité aussi. Finalement, c'est quelqu'un qui a vécu avec peu, très modeste, alors qu'elle était issue d'une classe sociale assez élevée.
Et, pourquoi elle a tout perdu?
Parce qu'elle s'est mariée avec mon grand-père, qui était d'une classe un peu plus modeste, justement. Et donc, elle avait fait ce sacrifice-là, entre guillemets, à l'époque. Et,
par amour?
Par amour. On a toujours eu des mariages d'amour chez nous, et c'est ce qui m'a permis de me forger, moi, en tant qu'être humain.
La Hiberek.
Et donc, du coup, c'est une personne qui m'a toujours inspiré jusqu'à maintenant. Et là, je ne l'avais pas du tout prévenue, je ne l'avais pas vue depuis avant la pandémie.
Elle est à Rai, Huria?
Ma grand-mère, elle n'est pas trop son genre, on va dire. C'est vrai que là, pour le coup, il y a un vrai décalage générationnel. Elle a beaucoup plus grandi, je pense, avec les divas arabes telles que Oum Kulsoum, etc. Et Warda un peu plus tard.
Et vous a apporté quoi, au final, ce voyage au pays du Rai?
Une forme de salut, je pense.
C'est-à-dire?
Le but pour moi, c'était évidemment de rendre hommage à mon père qui est décédé dans la période pendant laquelle j'ai travaillé sur ce documentaire. Et puis, le but était de rendre hommage à ma double culture qui est franco-algérienne. Et puis, il n'y a pas mieux que le Rai pour, je pense, illustrer ça musicalement.
Voyage politique et mémoriel, donc, avec... Quelle moralité, Rai, il est foutu d'une certaine manière. Les vieux le disent, en tout cas, leur Rai à eux peut-être est foutu, mais Rai is not dead. Vous confirmez?
Je confirme.
À voir sur Arte, donc série en 6 épisodes avec un générique magnifiquement évolutif et customisé en sol majeur avec Hadj Samir. Suite.
Pour vous, ailleurs, c'est où?
Ailleurs, c'est où? C'est n'importe quel endroit sur Terre où je ne suis pas avec les miens.
Mais il y a plein d'ailleurs, parce qu'on aurait pu croire que vous faites une fixette sur l'Algérie, mais juste en musique et au fond du lit, je n'ai pas été voir, ni vérifier, mais vous faites le tour des continents.
Je fais le tour des continents. On a la chance, enfin en tout cas moi j'ai la chance d'avoir grandi en France. J'ai passé une partie de mon enfance à Londres et de ma jeunesse à Londres, mais comparativement, quand je regarde ce qu'on a vécu en France, le mélange justement d'ethnies, toutes les langues qu'on a pu communément entendre, que ce soit dans les transports en commun.
Qu'on peut encore entendre.
Et qu'on peut encore entendre jusqu'à aujourd'hui.
Mais qui sont du côté de Saint-Denis là.
mais qui sont étouffées malheureusement par un discours que je déplore, mais... On a eu la chance d'être un point de convergence de beaucoup de cultures. Et ça s'est illustré à travers les rencontres que j'ai faites avec les disques.
Vous l'avez vécu comme une chance, le fait d'avoir
clairement.
Ces deux identités, ces deux cultures.
Pour moi, c'est une chance de ne pas connaître la monotonie. Je pense qu'il n'y a pas meilleure chose que de vivre en France. On a un visa multiculturel, en fait.
Donc, vous chinez, non pas des meubles, mais des sons. Et parmi vos 10 000 vinyles, mais vous vous êtes arrêté au chiffre de 10 000, et vos 3 000 cassettes, vous avez choisi pour un sol majeur deux pépites, dont celle-là.
On est au nord du Togo, et donc notamment une ethnie musulmane dont fait partie l'orchestre Abbas.
Nous, c'est-à-dire nous.
Mais je disais musulman parce que je m'inclus dans la communauté musulmane, mais du coup pour moi c'est des confrères, mais du nord du Togo en fait.
D'accord.
Et donc ils ont une teinte tout particulière dans leur chant qui est évidemment liée à la manière dont ils ont appris à réciter le Coran très très jeune et qu'ils ont réimprégné en fait dans leur manière de chanter. Et donc... Ce que j'aime faire, c'est vraiment faire un travail de corrélation entre différents pays de l'ouest de l'Afrique qui ont connu une invasion, même si je dirais plutôt une migration culturelle arabo-musulmane. Et donc, ils se sont imprégnés de ça. Certaines ethnies sont devenues religieusement musulmanes. Et donc, du coup, ont réinterprété à leur sauce cette culture-là. Et donc on sent l'énergie en fait dans ce son-là. C'est vraiment de l'afro-funk pur et dur.
Voilà. Le leader s'appelle Malamisa Abbas. Il est à l'orgue, à la guitare et sans doute au ganja. Mmh, et donc c'est ça qui vous saisit, je dirais, Hach Samir. Ouais. C'est ce mélange entre l'Afrique de l'Ouest et l'arabe, la langue arabe.
Exactement.
Vous l'avez pisté dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, oui, au Cameroun.
C'est ça, nord du Cameroun.
Avec Ahmad Kalkaba.
Oui, exactement. Ahmad Kalkaba, qui était une grosse figure politique camerounaise, qui était le meneur de Nord Cameroun Rizem, et qui lui aussi, finalement, a fait quelques 45 tours, justement, dans le style ganjal du nord du Cameroun, et qui est aussi très imprégné, justement, de cette tradition musulmane.
Et en Somalie, qu'est-ce qui se passe ?
La Somalie... ethniquement et majoritairement justement musulmane, et donc beaucoup d'artistes de la scène des années 70-80 ont réutilisé justement leurs skills dans la récitation du Coran pareillement, mais dans la chanson, en y ajoutant un groove très funky pareil dans les années 70, et puis ça a été mis en relief grâce évidemment à des synthétiseurs, des orgues et tout ça. Je trouve ça beau en fait, ces crossovers qu'on n'attend pas.
Donc vous pistez un petit peu les invasions musicales des musulmans en Afrique subsaharienne.
Je piste en fait tous les crossovers culturels, ça peut être, il y en a beaucoup d'autres.
Mais la musique apparemment vous fait sentir combien vous êtes de toute l'Afrique,
ouais,
et pas seulement de l'Afrique du Nord.
C'est ça. Déjà, historiquement, l'Algérie et le Maghreb étaient historiquement dans le passé un peuple donc berbère autochtone, donc qui a connu ensuite l'invasion arabe, phénicienne, turque, etc. Mmh. Donc finalement, et puis ensuite française. Donc cette créolisation fait qu'on a des racines de partout finalement, et y compris subsaharienne. Puis on le voit jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la musique gnawa au Maroc, qui a une grosse identité subsaharienne et africaine de l'Ouest, et plein d'autres genres comme ça. Donc on peut pas séparer si facilement tout ça.
Autre pépite trouvée dans la discothèque de Hach Samir. Soft Goka en sol majeur avec Robert Oumaou, leader de Guacassone, avec le morceau Algérie 62.
Oui.
Improbable.
Improbable, encore une fois, et qui a été réédité récemment, donc que les gens peuvent redécouvrir. Et finalement, un son qui évoque le départ en Algérie lors de la guerre de militaires franco-guadeloupéens. Et on l'entend bien, papa est pas là. Donc finalement, on parle bien justement des papas qui sont embarqués dans cette guerre. Je trouve ça intéressant, encore une fois, le mélange des mondes. Et puis, cette chanson qui rend hommage à des militaires qui ont été embarqués dans une guerre qui, finalement, les concernait pas totalement, je pense. Et puis, que ce soit géographiquement ou même, je pense, d'un point de vue même intérêt politique. Mais je trouve ça intéressant. C'est un son qui me touche beaucoup, déjà, parce que c'est du goka moderne. Le goka, c'est un son qui est dans la tradition afro-caribéenne, qui était... un son d'esclaves justement caribéens autochtones qui militaient en chantant avec un créole à eux grâce à la construction de percussions à partir de fûts de bois, que ce soit bière ou rhum. Et donc finalement ça a été un vecteur d'expression pour eux. Et puis là, un vecteur d'expression qui est devenu un peu politique en dénonçant justement le départ à la guerre de leur papa.
Et en faisant justement référence à ces soldats guadeloupéens partis faire la guerre d'Algérie, on ne peut pas ne pas penser à Frantz Fanon. Est-ce que vous l'avez lu ?
Figuio Martinez, je l'ai lu, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans son militantisme, dans son engagement. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont décrire certaines choses de lui. J'avais lu des choses sur Internet.
Sa violence, sa radicalité.
Oui, voilà. Mais en même temps, dans ce genre de mouvement, si on n'est pas radical, est-ce qu'on peut vraiment faire changer les choses ? Ça, c'est une autre question aussi qui est relevée. On se souvient aujourd'hui de lui, peut-être aussi grâce à sa radicalité.
Donc en tout cas, ce trait d'union musicale entre la Guadeloupe et l'Algérie rappelle ce lien fort entre ces deux peuples créoles. Parce que vous parlez de l'Algérie comme d'un pays créole.
Oui, clairement. Pour moi, la créolisation, c'est vraiment un mélange de cultures qui va faire bourgeonner justement une nouvelle culture. Alors, on avait bien évidemment la culture endémique qui était berbère et autochtone, mais finalement, elle s'est imprégnée des différentes vagues migratoires, des fois de colonisation, tout au long de son histoire. Et donc finalement, aujourd'hui, on voit des villages kabyles qui ont des noms quasi phéniciens. Dans la Darija, donc dans l'arabe communément parlé en Afrique du Nord, on voit des mots français intégrés dans certaines phrases. Donc pour moi, c'est une forme de créolisation, oui.
Vous diriez à Hadj Samir que vous faites partie de cette génération consciente, ça c'est un clin d'œil à couleur tropicale, consciente politiquement de l'histoire du XXe siècle? Oui, hein, apparemment, à vous écouter.
On ne peut être que consciente de ce qui se passe. Après, ce qui me rassure notamment, moi, ce que je vois à travers mes neveux et mes nièces, c'est que les jeunes d'aujourd'hui sont de plus en plus engagés tôt. Et moi, ma conscience, elle est bien aussi issue de ma famille, parce qu'on a évidemment toujours été des gens engagés politiquement.
Mais vous diriez que, parce que vous faisiez un comparatif entre les jeunes générations et la vôtre, vous n'êtes pas encore un vieux con, hein, ça va venir.
Mais... Non, j'ai un peu plus de la trentaine.
Vous diriez que ça va encore, que vous aviez une sorte de conscience un peu molle par rapport à la génération qui arrive?
Moi, je suis de la génération Chirac. On a grandi dans cette sorte d'entre-deux et de prospérité avec un France 98, un Black Blanc Beurre, etc.
Donc vous y avez cru?
On y a cru, mais j'y crois encore toujours. Malheureusement, ce n'est pas juste pas des messages qu'on retrouve aujourd'hui dans le paysage médiatique, mais qui existent quand même en substance.
On vous sent nostalgique.
Toujours.
Oui, c'est vrai. Hein, ouais. Vous avez un fond comme ça. D'ailleurs, vous aimez bien des photographies de Marc Garanger.
Ouais, Garanger, ouais.
Qui ont été faites pour le compte de l'armée française dans les années 60. Vous savez, ces photographies de femmes algériennes, évidemment, je ne connais que ça. Ce sont des portraits...
Terribles.
Elles sont
figées, en fait, et terrorisées. Et c'est ça qui est à la fois triste et beau dans cette œuvre. Il était photographe de base et travaillait pour l'armée. L'armée lui avait demandé justement de prendre des photos de ces femmes algériennes pour référencer les femmes des différentes tribus que l'armée française essayait en fait de catégoriser, de lister. Et ces femmes, c'est la première fois qu'elles étaient face à un objectif. Et donc, c'est la première fois qu'elles avaient une image d'elles-mêmes, en fait. Elles étaient terrorisées à l'idée, en fait, d'être prise en photo. Il a immortalisé ça dans un livre.
Oui, c'est l'image d'un viol, hein, ça se voit, mais on décèle aussi des regards qui ont une colère extraordinaire.
Absolument, et je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès de ce livre.
Donc vous êtes un peu, Hadj Samir, je disais nostalgique, un peu beaucoup curieux, et apparemment assez perché. Une personnalité que vous aimez bien, qui a le cheveu broussailleux, la barbe hirsute, les ongles démesurément longs et qui vit en ermite à Saint-Pétersbourg, mais c'est un génie, donc on lui pardonne, il s'appelle Grégory Perelman.
Ouais. Je suis fasciné par les sciences, mais je suis surtout fasciné par certains personnages et lui sort du lot pour moi. C'est quelqu'un qui a du coup a gagné la médaille de Fields, qui est un peu l'équivalent du
prix Nobel,
mais sauf qu'il est délivré tous les 4 ans. Et pour la résolution d'un problème multicentenaire qui était justement le théorème de Poincaré. Il a fait ça dans son coin à Saint-Pétersbourg, dans cette maison toute vétuste avec sa maman, dont il s'occupe encore aujourd'hui, qui est très âgée. Et il a donné du coup ses travaux et finalement il a été récompensé mais n'est jamais venu chercher la récompense.
Il est sur une autre planète.
Il est sur une autre planète.
Visiblement. Vous aussi. Vous aimez aussi l'astrophysicienne turque Bursin Multu Pakdil.
Oui.
Qui a découvert, j'ai été voir ça, une galaxie à anneaux à 360 millions d'années-lumière de la Voie lactée.
Ouais.
Tout ça, ça vous intéresse?
Ça m'intéresse. J'ai toujours eu la tête vers les étoiles, ça c'est sûr et certain. Et puis je voulais être astrophysicien quand j'étais petit. Mais ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a des figures scientifiques émergentes de tous les pays, en fait. On a aussi une tradition un peu institutionnelle des sciences dans certains pays, que ce soit l'Iran, l'Inde, parfois aussi la Turquie, certains pays arabes. Et c'est quelque chose qu'on a oublié. Et c'est aussi, pour moi, une façon de retracer l'histoire. Parce que finalement, on sait très bien qu'on a eu d'éminents artistes dans l'autre partie du globe, et pas qu'en Europe. Mmh. Et donc, c'était intéressant justement de parler de tout ça et de dire « Hello ». Et évidemment qu'on a les lumières et évidemment qu'on a de grosses figures, qu'elles soient littéraires ou scientifiques. Mais il y en a aussi dans l'autre partie du globe. Et c'est intéressant de croiser les travaux et d'interagir.
C'est quoi votre planète préférée à vous ?
Ma planète préférée, moi, je pense que ça restera la Terre.
Donc, les baskets sur la Terre
ouais,
et
ça.
La tête dans les étoiles. avec dans votre sac à dos encore deux musiques. Laquelle vous choisissez pour se quitter ? Est-ce que vous préférez rendre hommage à Ahmad Jamel avec Effendi ou bien retrouver Azimut avec Mania ?
Allez, Azimut.
Pourquoi ?
Grosse figure de la musique moderne brésilienne et dont un des membres fondateurs du groupe est décédé très, très, très récemment. Et finalement, là aussi, on a un crossover en fait, entre le jazz funk américain et les musiques locales brésiliennes. Il était un des pionniers dans ce jazz funk brésilien qui ensuite est venu conquérir le monde et puis notamment les grands collectionneurs contemporains anglais qui joue ça aujourd'hui dans les DJ sets en soirée, etc. Et donc c'est une figure très généreuse et très créative, et donc je voulais vraiment lui rendre hommage.
Hadj Samir en sol majeur, hashtag crossover. On dit comment crossover en algérien ?
Je dirais khalta, mais ça veut dire le mélange, quoi. Mais crossover, je ne sais pas s'il y a vraiment...
Avec l'accent ? Crossover.
Crossover. C'est ça, ça marche.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Hadj Samir, un petit peu de Nuit étoilée de Mbalark, une bonne louche Raï et une pincée de Houria. Tout ça à retrouver en podcast sur l'appli de votre choix ou bien sur notre site rfi.fr. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on garde les louches et les casseroles pour accueillir demain Madame Alessandra Montagne-Gomez. À demain.